Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Antoine Revitaille.
Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
Mais bonjour, Patrick Taillon.
Bonjour, Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, qu'on retrouve après quelques semaines de congé. Puis évidemment, il y a eu un gros sujet constitutionnel pendant cette pause-là de là-haut sur la colline. C'est la sortie de Justin Trudeau sur la disposition de dérogation ou la disposition de souveraineté parlementaire, comme certains l'aiment l'appeler.
Ben, Justin Trudeau voudrait modifier la Constitution.
Ah, c'est
mais,
ça, hein?
Ben, il voudrait un grand changement par rapport à ce qui a été négocié en 1982, puis à ce qui a été interprété à l'unanimité, là. Ça, c'est pas tous les jours, là. Cour suprême unanime dans l'arrêt Ford qui nous dit, ben, voici, c'est comme ça que ça marche, la dérogation. J'ouvre les guillemets. Il n'y a aucune raison d'exiger davantage en vertu de l'article 33. La Cour suprême unanime peut pas être plus claire que ça.
Mais est-ce là, qu'on peut juste rappeler ce que c'est qu'une dérogation, juste pour le commun des mortels non constitutionnaliste,
ben oui,
tout de même érotisé, là?
Ben, c'est le compromis de 1982 entre, non pas le Québec et le reste du Canada, parce que le Québec ne participe pas à ces négociations-là, mais entre les 9 provinces et le fédéral. Lorsque Pierre Trudeau proposait d'adopter la Charte canadienne, on savait que ça allait poser des limites à l'autonomie des parlements. Et donc, les provinces ont exigé qu'en contrepartie, si jamais les tribunaux exagéraient ou s'il y avait un désaccord avec la jurisprudence des tribunaux, de permettre en dernier ressort de rétablir cette souveraineté parlementaire pour 5 ans, renouvelable. Donc, c'est ça la disposition de dérogation, c'est la capacité de dire, ben, pour cette loi, pour 5 ans, renouvelable, notre solution, notre interprétation, celle du législateur, s'impose à l'interprétation préconisée par les tribunaux.
Et là, Justin Trudeau, influencé par un courant, disons, juridique, de pensée juridique, trouve que les provinces exagèrent, en font trop. Évidemment, ça commence par le Québec, là, qui en a mis des dispositions de dérogation dans la loi 21 et dans la loi 96.
Oui, et il faut être... Il y a quelque chose d'étonnant dans la position de Trudeau, c'est-à-dire que sur le fond, il y a une part de modération. Et sur la forme, ben, c'est beaucoup une astuce, voire même une forme de triche, là, que de présenter un désaccord d'interprétation, là où en vérité, ce qu'il veut vraiment, c'est sous-traiter à la Cour suprême, à des juges qu'il choisit lui-même et qu'il nomme unilatéralement sans que les provinces aient un pouvoir de décider qui ont place à la Cour suprême, il sous-traite à cette Cour suprême le mandat, en quelque sorte, de faire évoluer, de réformer l'équilibre, le compromis qui a été négocié en 82, parce que il veut pas se donner la peine de négocier franchement une modification constitutionnelle avec les provinces. Donc ça, c'est là la part d'astuce dans son approche. Et sur le fond des choses, ben on se dit, mais que veut-il vraiment? Si on regarde ce que les opposants en général proposent, ceux qui s'opposent à la dérogation, la plupart des propositions vont souvent beaucoup plus loin que celle qui est avancée par Justin Trudeau ici. Par exemple, Andrew Coyne, chroniqueur dans le Globe and Mail, lui propose qu'on désavoue tout simplement les lois provinciales, les annuler. Les opposants qui
parce
sont
qu'il y a
contre
un pouvoir,
la loi...
il faut le dire, là, dans la Constitution, il y a un pouvoir, effectivement, qui est devenu comme caduc avec le temps. C'est une relique qui permettrait effectivement au fédéral de faire ça.
dans une constitution qui n'est jamais modernisée, ben il y a des choses qui n'ont comme ça qui n'ont pas été exercées depuis les années 1940, mais qui sont encore théoriquement possibles. Ça fait partie des nombreux problèmes de la Constitution canadienne. Ouais. Il y en a plusieurs, surtout les opposants dans l'arrêt HAC. Eux autres, ils voudraient que les tribunaux s'autorisent de contrôler les motifs, les intentions, les objectifs, puis la gravité de l'action qui est menée par le législateur qui déroge. Donc, ils voudraient un encadrement beaucoup plus poussé et soutenu de la dérogation que ce que propose Justin Trudeau. Mais ce que je comprends mal, c'est que si on résume la position de fond de M. Trudeau, c'est on ne devrait pas pouvoir déroger préventivement. Donc ça veut dire quoi, ça, préventivement? Ça veut dire que on ne devrait pas pouvoir déroger tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne connaît pas la position des tribunaux sur la loi qu'on est en train d'adopter. Mm-hmm. Alors, effectivement, il veut limiter l'autonomie du Québec puis des autres provinces qui utilisent la dérogation. Mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu futile, d'un peu circulaire, au moins pour deux raisons.
La première, c'est d'abord... Qu'est-ce que ça veut dire, préventif? C'est ça, l'affaire.
Ben oui, comment on fait pour identifier une dérogation préventive? Par exemple, Doug Ford, lorsqu'il veut déroger à la charte pour une question de relations de travail et de droit de grève dans le système d'éducation de l'Ontario, il fait préventivement parce qu'il adopte une nouvelle loi. Sa loi n'existait pas hier, donc c'est une nouvelle loi. Et dès l'adoption de sa nouvelle loi, il met une dérogation. Mmh. Mais sur le fond des choses, ça n'a rien de préventif, puisqu'on sait très bien qu'il déroge à tel arrêt de la Cour suprême de 2015. Il y a toute la jurisprudence qui en a suivi. Donc, il y a quelque chose d'un peu fictif là-dedans. Même la loi 21. La loi 21, c'est une nouvelle loi, c'est vrai, sur le plan de la forme. Mais je veux dire, le gouvernement Legault aurait pu plutôt lui donner une autre forme, soit celle d'une modification à la loi 62 adoptée par le gouvernement Couillard. Puis cette loi, elle avait été suspendue par les tribunaux. Donc, sous la forme d'un amendement à la loi 62...
Alors là, on aurait pu dire que les tribunaux se sont déjà penchés sur 62, donc ce ne serait pas préventif, puisque ce serait une nouvelle version de 62, la loi 21, alors que c'est pas comme ça que François Legault l'a présenté. Il l'a présenté comme une toute nouvelle loi.
Ça tourne un peu en rond. Ça dépend comment on rédige l'affaire, dans quelle forme d'emballage on va mettre la dérogation, si je peux dire. Donc, il y a quelque chose d'un peu superficiel là-dedans. Et à terme, même dans la loi 21, il serait possible d'imaginer dès le début un considérant les arrêts, puis le Multani, MCLM, NS, etc. Tous ces grands arrêts de la Cour suprême qui ont défini la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses. Donc, à quelque part, même si on ne sait pas ce que les tribunaux pensent précisément de la loi 21, on connaît déjà, cette loi répond, elle répond à une jurisprudence qui existe déjà. Et à quelque part, il y a le deuxième aspect un peu superficiel de tout ça, c'est que la dérogation, elle a déjà une logique, sa propre logique avec son renouvellement à tous les 5 ans, une logique démocratique, hein, tous les 5 ans, on a une élection. Et donc, on se retrouve dans une situation un peu bizarre où, si jamais l'argument de M. Trudeau l'emportait devant les tribunaux, la grosse conséquence pratique, là, ce serait qu'il faudrait demain matin réadopter la loi 21 et la loi 96 à l'Assemblée nationale. Or, de toute manière, d'ici juin 2024, et ça, en termes de délai parlementaire, c'est presque demain, là, c'est dans moins d'un an et demi, le Québec est déjà obligé de réadopter la loi 21. Alors, c'est ça qui est important pour M. Trudeau, là, c'est qu'on la réadopte, la loi 21, on va la réadopter à tous les 5 ans. Et des fois, j'écoute M. Legault s'indigner à bien des égards de cette ingérence du fédéral dans le débat sur la dérogation, mais on dirait qu'il ne semble pas tout à fait conscient que de toute manière, et ça presse, ça devient urgent la réadoption de la loi 21, et si on est pour aussi renouveler la loi 96, il va se poser très vite à Québec des questions. Est-ce qu'on fait les deux renouvellements en même temps? Comme processus démocratique, qu'est-ce qu'on veut au moment de renouveler ces lois-là? Il y a des gens qui vont dire on voudrait que ça soit le plus automatique possible, le plus vite possible. D'autres vont dire non, on voudrait au contraire avoir le temps de, d'avoir peut-être un rapport d'évaluation ou une consultation sur comment s'est passée l'application de la loi. Peut-être qu'il faudrait, dans le règlement de l'Assemblée nationale, prévoir un moment dans le calendrier où l'étude du renouvellement ou non-renouvellement de ces dérogations-là s'impose. Je pense que le Québec va devoir s'imposer une réflexion sur quel genre de processus de renouvellement on veut. Et ça, c'est un autre débat que celui que Justin Trudeau propose devant la Cour suprême, mais à la fin, les deux débats atterrissent, convergent vers une même réalité, c'est qu'on a le droit de déroger, mais il va falloir le renouveler à tous les 5 ans.
Et ça permet un dialogue, justement, non seulement entre les parlementaires, les élus, la société civile, mais aussi entre tout ça et les tribunaux, le fameux 5 ans, non?
Oui, et cette théorie du dialogue, elle est au cœur de la manière dont les tribunaux ont défini leur propre légitimité. Donc, ils disent, nous, on n'est pas élus, mais on sanctionne les lois votées par les élus parce que les élus nous ont donné le pouvoir de le faire et parce qu'ils conservent le pouvoir de nous répondre si nécessaire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le discours officiel que la Cour a adopté pour se donner une légitimité. Et donc, ce serait un peu paradoxal qu'en cherchant à en finir avec la dérogation, ben les tribunaux viendront en quelque sorte scier la branche sur laquelle leur légitimité est assise.
Mais sur le plan technique, là, Patrick, préventif, comment ils pourraient les tribunaux définir ça? Il me semble que c'est très difficile. J'ai de la misère à concevoir.
Ben moi, je pense que à terme, c'est là la plus grande faiblesse de l'argument avancé par Justin Trudeau qui voudrait interdire les dérogations
préventives. Mais est-ce qu'il y a eu des propositions de définir ce qui est préventif ou non?
On
semble
l'a
bien montré, une loi peut tout simplement dire « considérant tel arrêt ».
C'est ça. On semble dire qu'une nouvelle loi, on ne pourrait pas y déroger. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle loi? Moi, je ne connais pas vraiment une nouvelle loi, puisque une nouvelle loi répond toujours à la jurisprudence qui existe déjà. Et donc, je vois mal en quoi c'est purement préventif, puisqu'on sait, on connaît déjà l'environnement jurisprudentiel dans lequel ces lois-là. En plus, une nouvelle loi, pour adopter une nouvelle règle, je peux le faire dans une nouvelle loi, comme un nouvel emballage, une nouvelle enveloppe, mais je peux aussi le faire en modifiant une loi déjà existante. Donc, si c'est là qu'on veut aller, ça donnera pas grand-chose. Donc, il y a beaucoup de rhétorique, positionnement préélectoral.
Oui, c'est ça.
Mais sur le fond des choses, la proposition de distinguer préventif et correctif, c'est peut-être une bonne éthique de la dérogation, mais je pense pas que ça peut tenir la route en pratique. Mais ma peur demeure. En adoptant cette position-là, le gouvernement fédéral met toutes ses ressources pour dire à la Cour suprême, vous devriez faire un pas de plus pour limiter la dérogation. Ma peur est la suivante, c'est que la Cour réponde, oui, vous avez raison, tant qu'à faire un pas, on va en faire un ou deux de plus.
C'est ça.
Et là, c'est 2 ou 3 pas de plus. Ça pourrait faire bien plus de dommages à l'équilibre des pouvoirs qu'on connaît depuis 1982 qu'à ce qui est proposé par le fédéral. Une fois qu'on ouvre la porte, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir.
Exactement. Merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette première chronique de 2023, puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine.
Au plaisir.
Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la première de Là-haut sur la colline de 2023 en ce beau lundi neigeux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.